Les élections régionales permettent d'élire au suffrage universel des conseillers régionaux pour 6 ans.
Est-ce que vous avez voté hier pour le premier tour des régionales ?
Oh non, j'ai pas voté.
Alors les jeunes et la politique, on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Vous en pensez quoi ?
Et si les jeunes s'intéressent à la politique, la preuve c'est qu'ils se lèvent tôt pour couvrir ces élections. Et il les couvre, ces élections régionales, sur Radio Campus Tour. Alors, pour petit rappel pour nos auditeurs qui ne seraient pas au courant, le premier tour de ces élections aura lieu dimanche 6 décembre. Il va permettre d'élire les premiers conseillers régionaux depuis la réforme des régions. Et jusque-là, chaque matin, nous allons recevoir sur Radio Campus Tour l'un des membres d'une des listes qui se présentent aux prochaines élections. Pour réaliser cette interview, je suis avec Iris et Tim. Bonne matinée.
Bonjour Maxime, bonjour à tous.
Bonjour à tous.
J'allais dire bonsoir par réflexe, mais il faut aussi dire que c'est l'une des premières matinales sur Radio Campus et qu'on est plutôt fiers de la faire tous ensemble et de la commencer avec Anne Brunet, enseignante au lycée professionnel. En lycée professionnel, vous êtes candidate aux élections législatives de 2012. Vous êtes candidate à ces élections et vous représentez la liste de lutte ouvrière. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va commencer par le général. Tout d'abord, on doit forcément évoquer les événements dramatiques qui sont passés il y a une semaine et vous demander si votre campagne a repris depuis.
Bah oui, d'abord, nous, on a été très, très touchés, très horrifiés de ce qui s'est passé, et comme tout le monde d'ailleurs, je crois, ce 13 novembre. Ces actes horribles sont commis par des gens qui n'ont plus rien d'humain. Dans leur démarche, dans leur perspective, et nous les condamnons fermement. Voilà. Ensuite, il faut quand même que la vie politique continue, parce que les intérêts des uns et des autres dans notre société ne sont pas les mêmes. On nous a laissé entendre qu'au lendemain de ces horribles attentats, il fallait une union nationale, une unité, tout le monde comme un seul homme derrière le président de la République ou ces courants politiques qui aujourd'hui dominent la vie politique et qui tiennent le pouvoir de l'appareil d'État. Et là-dessus, nous, on n'a pas été...
Point de vue ambiance, notamment quand vous allez à la rencontre des citoyens, je suppose qu'on fait beaucoup lors d'une élection régionale, ça a changé quelque chose dans les discours,
oui,
dans les débats qu'on
oui,
peut
oui,
avoir ?
Oui, évidemment, parce qu'il est tout à fait légitime de répondre aux craintes qui se sont exprimées au lendemain de ces attentats, et ça fait partie des discussions que nous avons avec les gens qu'on rencontre dans la rue, là où on fait campagne.
Et donc, il faut continuer d'en parler. Très bien, voilà pour cette petite ouverture. On va passer à des questions un petit peu générales avant d'attaquer précisément les points de votre programme avec mes deux chroniqueurs. Alors, tout d'abord, vous êtes un parti engagé contre, je cite, « les riches parasites et leurs porte-parole, les hommes politiques et les médias ».
Oui.
C'est pas très gentil pour nous, ça.
Je crois pas que la société dans laquelle on est soit gentille. Hein. Regardez ce qui s'est passé.
Mais vous croyez qu'on est le porte-parole d'hommes politiques et de riches parasites ?
Les médias, ça, c'est quelque chose de général. Qu'est-ce qu'on entend d'une façon globale dans les médias qui sont tenus quand même, je vous le rappelle, soit par le pouvoir gouvernemental, soit pour la plupart des médias, par des milliardaires qui en sont propriétaires, c'est quand même la voix du système et la voix des défenseurs de ce système que nous, on condamne, parce qu'il crée tellement d'inégalités, tellement d'injustices qu'on ne peut que le condamner. Je crois, en tout cas, trop de monde subissent, trop de gens dans ce pays comme ailleurs subissent ce système.
Alors, vous dites qu'on est dans un monde pas très gentil. On le retrouve, ce discours, dans vos tracts, un discours assez alarmiste, voire guerrier. Parfois, vous parlez de camps opposant les salariés au patronat.
Oui, effectivement. Moi, je suis convaincue qu'il y a dans cette société des camps sociaux, c'est-à-dire des groupes dans la société qui ont des intérêts fondamentalement opposés. Et ces groupes, principalement, sont le patronat, la grande bourgeoisie, et les gens qui n'ont que leur travail pour vivre et qui doivent aller vendre leurs compétences, leurs capacités, leurs bras, leurs forces, hein, ce que Marx appelait la force de travail, hein, à ceux qui détiennent les capitaux et qui imposent leurs lois, hein, aussi. Et donc ça, c'est une réalité de notre société depuis deux siècles. Et certains voudraient peut-être la gommer, mais elle est belle et bien existante.
Pour vous, il y a vraiment une violence,
une violence réelle contre ces travailleurs, quelque chose de très alarmiste. Comment...
Il y a une violence sociale quand on vous impose, pour pouvoir gagner votre vie, de venir travailler à 5h du matin pendant toute votre vie.
Ce qu'on fait ce matin.
Il n'est pas vraiment 5h, il est quand même que 7. C'est pas tout à fait pareil, je pense, quand on a à se lever. Mais voilà, pour enchaîner à une machine où il faut suivre la cadence imposée pour la production... etc. Bien sûr que c'est une violence sociale, sans parler du chômage, qui est quand même aujourd'hui la principale violence que subissent des gens, c'est-à-dire être privé d'un gagne-pain.
Alors, sur l'élection en général, bon, on va pas se mentir, et si on est sincère à Radio Campus, vos chances de victoire sont plutôt maigres.
Bien sûr.
Apparemment, on sait jamais, après, ça reste possible, mais maigre. Il y a d'ailleurs une forme de presque de résignation, on a l'impression, dans votre programme, avec cette phrase dans l'introduction. Pas plus que les autres élections, celles-ci ne peuvent changer le sort des travailleurs.
Alors ça, c'est pas du tout de la résignation.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est pas de la résignation, il s'agit de combattre cette illusion comme quoi on pourrait changer notre vie, qu'on pourrait changer la société uniquement par le bulletin de vote.
Mais ça veut dire que l'élection, elle sert à rien ?
Pas du tout, elle ne sert pas à rien. C'est très important que la population et les travailleurs auxquels nous on s'adresse plus particulièrement puissent s'exprimer et se servir de leurs droits, c'est-à-dire de leur droit d'expression par un bulletin de vote pour dire ce qu'ils pensent. Ça, c'est pas négligeable. Hein, nous, on tient à ce droit et à la possibilité de l'exercer.
Mais pas que.
Mais en ne se faisant pas l'illusion qu'on changera les choses comme ça. Ça ne suffira pas.
Alors que ça changera comment ? Quel autre moyen ont les citoyens ?
L'autre moyen principal, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui font fonctionner la société, ceux qui font que tout fonctionne, de vous qui tenez la radio, à celui qui va balayer les rues, ramasser les ordures, faire fonctionner les machines, etc. Hein, tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas de poids en apparence individuellement dans cette société, collectivement, ils sont des millions à faire que cette société, elle fonctionne. Et le jour où les millions qui font fonctionner cette société se disent « on ne veut plus fonctionner comme ça, on arrête ça, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on ne veut plus se faire exploiter, on veut exiger qu'il y ait de l'emploi pour tout le monde », on a un moyen de pression énorme, collectivement.
Vous parlez de cette masse populaire avec un sourire et une envie, on sent beaucoup d'émotions dans cette idéologie, en fait vous êtes un parti d'idéologie quelque part.
L'espoir en tout cas, il est là, il est à la mobilisation des classes populaires. Alors vous pouvez parler d'idéologie, mais je vous rappelle quand même que dans l'histoire du XXe siècle, par exemple, il y a eu des grands moments de mobilisation populaire en 1936, en 1968, hein, où on a vu des millions de travailleurs bloquer l'économie et là, tout d'un coup, mesurer le poids, la force qu'ils représentent
et
dans la société.
Et c'est ça qui pourra remplacer l'élection, enfin qui pourra agir en dehors de l'élection.
Sûrement pas la remplacer parce que ça n'a pas le même objectif, le même rôle, mais qui pourra en tout cas permettre... aux classes populaires d'imposer leurs revendications et de les faire entendre bien plus fortement.
Alors, on comprend que pour vous, l'élection ne suffit pas à changer le sort des travailleurs, mais dans ce cas-là, on se demande pourquoi se présenter à une élection qu'on ne gagnera assurément pas ?
Justement, parce qu'on a des choses à dire et que les élections sont des moments de la vie politique dans lesquels il faut être, parce que les travailleurs nous entendent, les travailleurs sont amenés à s'exprimer dans ces élections et il faut qu'ils soient représentés par un courant politique qui défend leurs intérêts. Hein, voilà pourquoi laisser la vie politique simplement à ceux qui défendent le système. Non, il faut que tout le monde puisse s'exprimer, on doit pouvoir aussi exprimer qu'on n'est pas d'accord avec ce système, qu'on n'est pas d'accord avec la politique de Hollande, pas plus qu'on l'a été avec celle de Sarkozy. Hein, et le dire clairement. Et nous, on dit aux travailleurs, dites-le en votant pour un courant qui est un courant communiste, révolutionnaire, qui veut changer la société, qui aujourd'hui n'est pas en mesure de la changer là, tout de suite, immédiatement, mais qui au moins permet aux travailleurs de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec l'organisation de la société actuelle, le fait qu'on fasse subir la crise au monde du travail.
Alors, vous êtes crédité, selon un sondage de la Nouvelle République, de 1,13% des voix. Ça veut dire qu'il y a seulement 1,13% des travailleurs qui ne sont pas contents et qui veulent changer ce système.
Les statistiques ont quelque chose d'un peu aberrant. 1,13% avec quoi ? Avec 1% ou 2% de marge d'erreur. Voilà, enfin, oui, bon, on représente...
Dire entre 3,13 et moins 2,13.
Non, j'ironise, mais évidemment que nous sommes actuellement un courant minoritaire dans la société, bien sûr. Mais... ça ne nous empêche pas de trouver important d'être présent. Ce courant minoritaire, d'abord, il a une certaine constance dans la vie politique de notre pays. Depuis les années 1970, on s'est présenté dans la mesure du possible à la plupart des élections, à toutes les élections présidentielles, etc. On n'est pas comme ça un courant de passage. On représente des idées qui existent dans cette société, qui représentent des centaines de milliers de personnes malgré tout, même si en pourcentage, ça fait faible. Et puis, je pense qu'on en représente encore plus parce qu'il y a beaucoup de travailleurs qui s'abstiennent, qui ne vont pas forcément aller voter ou qui ne se sont pas inscrits sur les listes électorales, etc., mais qui partagent une grande partie de ce qu'on pense.
Alors, vous êtes un parti anti-système, vous l'avez dit, et vous critiquez d'ailleurs fortement le PS, les Républicains, le Front National, mais aussi le Parti communiste français. À qui vous reprochez de ne plus représenter la classe ouvrière? Pourquoi?
Parce que le Parti communiste, il a participé à cette illusion dans le Parti socialiste, dans le fait qu'il suffirait de bien voter pour changer les choses, et nous on pense que c'est une tromperie. Alors c'est bien dommage que bien des militants du Parti communiste, qui sont des gens avec qui on a une fraternité de lutte, etc., défendent cette politique qui laisse croire qu'un Mélenchon, dans le passé ce fut Mitterrand, dont ils ont fait la campagne et qu'ils ont fait élire en 81, etc., que tous ces gens-là pourraient changer la vie en arrivant au gouvernement. On n'est pas d'accord avec ça.
Alors on fait comment? Ça sert à rien de se présenter à une élection, en fait.
Et pourquoi donc? Pourquoi? Parce qu'il faudrait obligatoirement être allié avec un tel ou un tel?
Non, parce que si ça ne change pas, si on n'arrive pas à changer la vie à travers une élection.
C'est ce que je disais tout à l'heure. L'élection est un moment qui permet de dire des choses, mais on l'a vu. Le problème, c'est qu'on a affaire à des gens, là j'évoquais pour le passé Mitterrand, ou pour une période plus récente Mélenchon... même ceux qui se prétendent, c'est dans les discours de ce type de dirigeants, prétendent à une rupture anti-système. C'est un mot dans leur bouche, mais c'est pas leur objectif. On les voit, au bout du compte, quand ils sont au pouvoir, être des gestionnaires du système qui marchent tout à fait avec le patronat, qui une fois qu'ils sont au pouvoir vont dans le même sens que les autres. On a vu le Parti socialiste réhabiliter les valeurs de la bourse, etc., mettre en œuvre des mesures anti-ouvrières. Aujourd'hui, c'est la casse du code du travail. Il y a bien des mesures que tous ces gens-là qui se disent un moment critique du système sont prêts à prendre quand ils sont au pouvoir, parce que ils sont face à la bourgeoisie, face au patronat, ils sont, moi je dirais, je suis désolée du terme, c'est des carpettes, quoi. Ils ne défendent plus aucune politique. Ils sont pas dans le camp. C'est une question de camp social, effectivement. Ils sont pas dans le camp des travailleurs. Ils sont pas dans le camp de la classe ouvrière, même si ils parlent à la classe ouvrière dans les périodes d'élection pour avoir leur vote.
Alors justement, parce que le but de cette élection, même si pour vous on a compris c'était surtout une manière de faire passer un message, c'est aussi pour beaucoup de se faire élire. Et si vous ne passez pas au deuxième tour, est-ce que vous apporterez votre soutien à un parti que vous considérez mieux que les autres?
Ce qu'on fera au deuxième tour, on verra le moment venu, mais mieux que les autres, même s'il y a des partis avec lesquels on peut partager certains aspects.
Comme lesquels?
Certains partis, on parlait tout à l'heure du Parti communiste, on partage certaines critiques de la société, mais on n'ira pas, je sais pas si le Parti communiste, je crois que de toute façon, sous le nom de Front de Gauche, de toute façon, il a envisagé de s'allier systématiquement au Parti socialiste au second tour en fusionnant les listes.
Ils n'ont pas prévu de s'allier pour l'instant.
On verra, vous verrez.
S'ils nous écoutent, ils doivent bondir.
Oui, nous verrons cela, mais en tout cas, nous n'apporterons, pour ce qui nous concerne, aucunement notre soutien à un parti qui est celui, aujourd'hui, du président de la République, qui mène une politique qui est tout à fait celle qu'on dénonce et qu'on ne soutiendra en aucun cas.
Mais le Parti communiste, pourquoi pas?
Le Parti communiste, faudrait déjà qu'il se maintienne au deuxième tour.
S'il se maintient.
Et qu'ensuite, ce ne soit pas pour apporter son soutien à la politique qui est menée actuellement. Je vous rappelle qu'au niveau de la région, par exemple, le Parti communiste, il est allié au Parti socialiste pour la diriger. Et ils font alliance un peu partout, hein, et actuellement ils tiennent les régions
ensemble. De moins en moins quand même.
Ah bah, avec une voix critique, mais au bout du compte, ils gouvernent cette région ensemble.
D'accord. C'est donc c'est tout pour les questions générales. Je vous propose qu'on passe avec mes deux chroniqueurs aux questions centrant un peu plus le programme. Alors avant de commencer avec Tim et l'emploi, une question générale. Votre programme, il ressemble plus à une profession de foi que proposant des mesures concrètes, en fait.
Et je crois que des mesures concrètes, il y en aurait beaucoup à prendre. Comme l'interdiction des licenciements, comme si, parce que la région, par exemple, elle distribue des subventions au patronat, à des patrons, à des entreprises qui, bien souvent, ne créent aucun emploi avec tout ça. Et tout ça, c'est non seulement discutable, mais nous, on le dénonce.
Hein, alors, quand on a reçu votre programme, en fait, on avait surtout l'impression, il y avait, comparé aux autres programmes, peu de mesures concrètes applicables pour la région. On avait surtout l'impression que c'était une sorte de manière de s'exprimer, en fait.
Alors, je comprends ce que vous voulez dire, parce que nous, on se positionne pas en gestionnaire. Notre, comment dire, notre perspective aujourd'hui, ce n'est pas d'être les gestionnaires de ce système, c'est de montrer comment l'argent, hein, dont on dispose dans la société, elle pourrait servir à toute autre chose, mais il faudrait déjà qu'elle soit pas entre les mains de cette petite minorité qui ne raisonne que pour son profit.
Alors, on va essayer de comprendre ce que ça signifie en commençant avec l'économie et l'emploi, avec toi, Tim.
Oui, alors on va parler d'un sujet qui touche et qui intéresse les Français. Au niveau de l'emploi, la région Centre-Val-de-Loire stagne aux alentours de 9,6% de chômage pour l'année 2015. Pour lutter contre ce fléau, vous proposez comme mesure phare, donc une mesure concrète, l'interdiction pure et simple des licenciements. Est-ce que cette proposition, elle est vraiment réalisable ?
Eh bien, pour la réaliser, je crois que ce qui sera nécessaire, c'est que le monde du travail impose cette mesure. Comment imposer l'interdiction des licenciements ? Eh bien, pas seulement parce que Lutte ouvrière aurait des élus à l'Assemblée régionale. Ce serait une très bonne chose que nous en ayons, mais on sait très bien que ça ne suffirait pas. Et donc, c'est les travailleurs eux-mêmes qui peuvent imposer cette interdiction des licenciements dans les entreprises où ils travaillent.
Comment ils peuvent y arriver ?
Par un grand mouvement contre le patronat, contre ceux qui sont ces licencieurs, hein, pour exiger autre chose, pour exiger que le travail soit réparti entre tous ceux qui en ont besoin, entre tous les bras, hein, et pas seulement les bras qui sont déjà au travail, mais aussi ceux des chômeurs d'ailleurs, ou ceux des intérimaires, des gens qui ont des contrats précaires, qui ne demandent qu'à être embauchés, et pour beaucoup d'entre eux en tout cas, et à pouvoir avoir un salaire qui tombe régulièrement. Aujourd'hui, c'est pas du tout la direction que prend ni les dirigeants d'entreprise, les patrons, ni même le gouvernement ou les institutions régionales qui le suivent.
Sincèrement, est-ce que vous savez si c'est économiquement viable ?
C'est économiquement viable. Vous avez vu la masse d'argent qui existe dans notre société. Cette masse colossale qui permet aujourd'hui à une fraction de la bourgeoisie de se construire des yachts qui ne logent même plus dans les ports de plaisance tellement ils sont gigantesques. Où va l'argent dans notre société ? Alors on ne sait peut-être pas toujours où va l'argent. Hein. Donc nous, ce qu'on réclame pour justement voir si c'est viable, si c'est possible, c'est le contrôle des comptes des entreprises. Où va l'argent ? On devrait pouvoir exiger de le savoir. Hein, alors, il y a des comités d'entreprise dans les grandes entreprises qui ont un certain droit de regard. Mais on leur dit ce qu'on veut bien leur dire aux comités d'entreprise. En particulier, le patron, il ne dit pas ce qu'il fait de ce qu'il a mis de côté pour lui. Hein, combien d'entreprises il a racheté avec ça ? Combien d'immeubles qu'il va louer, sur lesquels il va faire de l'argent ? Qu'est-ce qu'il fait de la fortune issue du travail, hein, des profits tirés du travail de tous ceux qui sont dans ces entreprises ? Ça, il n'y a pas aujourd'hui de contrôle de la population, des travailleurs eux-mêmes là-dessus. Et ce serait le meilleur moyen de savoir si les moyens existent pour faire tout ça.
Au fait, c'est un appel à la révolte que vous demandez, presque.
Probablement, on ne pense pas spécialement qu'il suffira d'appuyer sur un bouton ou d'appeler les gens à la révolte pour qu'il se passe quoi que ce soit de cette nature. Mais moi, je crois que le système est tel, il tire tellement sur la corde, il en impose tellement à la population, au monde du travail, qu'à un moment donné, cette corde, elle va se rompre et que les révoltes, on va en voir surgir. Hein, et les inégalités, tout ce qu'aujourd'hui est imposé aux classes populaires comme recul, et ça correspond à un ras-le-bol, ça entraîne un ras-le-bol énorme. et les gens vont pas toujours subir ça sans rien dire. Alors le problème, c'est que le jour où la colère, elle va exploser, qu'est-ce qu'on aura comme perspective? Qu'est-ce qu'on va demander? Nous, on propose un programme pour que lorsqu'on s'en donnera les moyens, justement, eh bien, on ait des perspectives qui puissent changer les choses en profondeur dans la société.
Alors, on va revenir aux mesures concrètes pour l'emploi. Vous proposez une augmentation générale des salaires et des retraites, tout en les indexant sur les hausses des prix, des taxes et des impôts. Comment est-ce qu'on la réalise, cette mesure? Comment est-ce qu'on la met en place?
Alors, d'abord, qui va la mettre en place? Ceux qui payent. Ceux qui payent aujourd'hui, ce sont des patrons qui payent pas grand-chose comme salaire. C'est aussi l'État, parce que dans la fonction publique, en particulier, les catégories C, mais pas seulement, sont peu rémunérés. Les salaires aujourd'hui, ils ne sont pas suffisants pour vivre correctement. C'est pas par hasard qu'il y a des tas de gens qui font des heures sup, etc., pour essayer d'avoir un niveau de vie qui correspond à quelque chose d'un peu plus décent. Les salaires sont insuffisants. Donc, il faudra contraindre le patronat, il faudra contraindre l'État à d'autres choix que les leurs actuellement. Alors, lutte ouvrière, ça suffira pas pour contraindre. Nous, on est un groupe de militants. Le jour où on sera, où on aura suffisamment de députés dans les parlements régionaux, à l'Assemblée nationale ou ailleurs, de toute façon, c'est très bien. Et ça nous distingue d'autres groupes qui, eux, prétendent que ça va changer les choses. On sait très bien que ça ne suffira pas parce que le patronat, il tient les cordons de la bourse. On l'a vu avec la Grèce. Et quand il tient les cordons de la bourse, il les tient serrés. Alors après, c'est une question de rapport de force pour pouvoir imposer ça.
Vous proposez aussi la répartition du travail entre tous sans diminution de salaire. Oui. Est-ce que là aussi, on peut y arriver? Est-ce que vous aurez la possibilité de le faire réellement?
Déjà, je pense que c'est vital et qu'aujourd'hui, dans énormément d'entreprises, je vais vous donner un exemple qui est local. Dans l'agglomération de Tours, vous avez l'entreprise Safety, qui est du côté de Fondette, qui est une entreprise qui dépend d'une multinationale qui fabrique des outils coupants pour l'industrie. Dans cette entreprise, là-bas, il y a deux usines différentes. Il y a une des usines où il y a un surcroît de travail, une surcharge de travail pour tous ceux qui y sont. Et dans l'usine d'à côté, là, ils viennent d'annoncer qu'ils vont supprimer, je crois, quelque chose comme 45 postes. 45 emplois pour fermer l'usine d'à côté. Est-ce que ces 45 personnes, plutôt qu'on les mette à la porte, on pourrait pas les faire travailler dans l'usine d'à côté, où tous ceux qui y sont ont une surcharge de travail, on leur impose des cadences, des heures supplémentaires, etc. C'est ça le partage du travail. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que ces grands groupes, qui font quand même l'essentiel aujourd'hui dans l'économie, ils n'auraient pas les moyens de payer ça, alors qu'ils dégagent des millions et des millions de profits, voire des milliards. Il s'agit de grands groupes multinationaux, et on en a beaucoup, même dans l'agglomération de Tours, pas que Safety. Alors, allons voir, nous on dit, il faut qu'ils prennent sur leurs profits pour maintenir l'emploi, pour permettre à tout le monde de garder son emploi.
D'accord.
Merci beaucoup. En tout cas, ça fait très envie. Ça fait très envie. J'ai un petit boulot étudiant à McDonald's, je vais aller demander à mon patron si je peux avoir un petit peu plus... Vous pensez que ça pourrait marcher?
Évidemment, moi je pense que collectivement, les travailleurs...
Faut que j'y aille à plusieurs, du coup.
Je pense qu'on n'obtient pas la même chose seul face à son patron ou quand on fait une démarche collective. Mais je vous assure qu'on manque peut-être de cette expérience dans ces dernières années, mais que lorsqu'on agit collectivement, on a bien plus de poids pour se faire entendre.
Et on continue avec des questions sur l'économie avec Tim.
Oui, avec les banques, vous voulez fusionner les banques. Est-ce que c'est pas une atteinte à des libertés essentielles comme la liberté d'entreprendre? C'est l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Oui, est-ce que vous croyez, vous parlez de la liberté d'entreprendre, mais qu'un petit artisan, qu'un petit agriculteur, il a beaucoup de cadeaux par les banques? Ces banques qui ne pensent qu'au profit, eh bien, elles acculent les petits gens, les gens qui veulent vivre de leur travail, que ce soit en indépendant ou pas, elles les acculent soit à ne pas leur prêter d'argent quand ils en ont besoin parce qu'ils n'ont pas assez d'arrière, de garantie, etc. au vu des banques, soit à leur imposer des taux d'intérêt qui les enfoncent. Les banques, aujourd'hui, leur objectif, c'est de faire de l'argent. On a vu comment elles sont impliquées dans la spéculation. Par exemple, c'est pas d'aider la société à bien fonctionner. Alors, quand c'est des très grosses entreprises avec des très gros budgets, des très gros arrières, ils se permettent. Mais elles ne sont pas au secours des petites gens, des classes populaires et des petits entrepreneurs, par exemple.
Mais ce qui fait un peu peur, c'est que ce n'est pas le risque d'un contrôle d'État de fusionner une seule banque.
Ce serait bien plus efficace d'avoir une banque globale
contrôlée
qui serait un monopole d'État, oui. Mais le problème, c'est quel État ? Qui fait le choix au niveau de l'État et que représente l'État ? Ça pose ce problème-là, bien sûr. C'est-à-dire que nous, on pense que ça, ce serait valable, mais sous le contrôle des travailleurs, pas un État, indépendant du contrôle de l'ensemble des travailleurs sur ce qu'ils choisissent de faire.
Alors justement, si on pouvait définir un petit peu ce contrôle des travailleurs qu'on retrouve un peu partout dans votre tract, oui. Que ce soit pour gouverner l'entreprise, pour abolir le secret des affaires, pour un meilleur contrôle des travailleurs, qu'est-ce que vous entendez ? Comment ça se mettrait en place ?
C'est une question essentielle, effectivement, le contrôle. Si les travailleurs ne contrôlent pas cette économie, cette société dans laquelle on vit, on voit qu'elle est entre les mains d'une minorité qui n'a comme objectif que son profit.
Mais la question, c'est comment ils
comment le faire, ce contrôle ? Voilà. Il faudra pour ça que les travailleurs soient mobilisés, c'est-à-dire se mettent à faire de la politique. Nous, on appelle tous les travailleurs à prendre en main leur propre sort en se mettant à faire de la politique et en ne laissant pas leur avenir entre les mains d'hommes politiques professionnels qui sont payés par la bourgeoisie, entre les mains de gens sortis de grandes écoles qui viennent de la bourgeoisie
et qui la... Oui. En ce qui concerne le contrôle d'une entreprise par les travailleurs, comment oui. on la met en place concrètement ?
On la met pas en place par en haut, en tout cas par une décision comme ça. Il faut pour ça que les travailleurs soient mobilisés, soient préoccupés d'aller exiger. Il faut qu'ils fassent entendre leurs exigences. Est-ce que vous avez déjà vécu une grève ?
Quel système on peut mettre en place ?
J'essaie de vous répondre. Est-ce que vous avez déjà vécu une grève ?
Oui, une ou deux, oui.
Voilà. Quand vous vivez une grève, vous voyez comment peuvent se poser les problèmes de contrôle des gens qu'on élit pour nous représenter. Donc quand on est mobilisé, on choisit à notre tête, on contrôle collectivement dans l'action, et pas simplement en mettant un bulletin dans l'urne tous les 5 ans, et entre-temps, tout ce qui se passe, on n'a aucun moyen de le contrer, si ça convient pas, si ça va pas dans le sens. On est par exemple pour la révocabilité des élus. Les élus, il faut qu'ils soient...
Mais ça répond toujours pas à ma question sur le contrôle d'une entreprise. J'aimerais juste un exemple concret de savoir comment les salariés d'une entreprise peuvent la contrôler et contrôler son patronat, contrôler ses dépenses, contrôler où vont les investissements.
En ayant des exigences, en n'étant pas que des producteurs...
Il faut faire
des
grève gens... à chaque,
laissez-moi
chaque
finir.
Séance.
Laissez-moi finir. En n'étant pas que des travailleurs qui viennent chaque matin gagner leur salaire... en allant sur leur poste de travail sans rien dire, en ayant l'exigence de savoir comment ça marche dans cette entreprise, et pas seulement comment ça marche, comme on peut le faire en ayant des élus au comité d'entreprise, etc. Mais exiger, oui, chaque jour, ça suppose une mobilisation, ça suppose une perspective différente au quotidien quand on va sur son lieu de travail, et ça suppose de le faire collectivement.
Mais ça existe, ça, déjà ? C'est les SCOP, ce que vous proposez, au fait ? Est-ce que ça peut être une solution viable ?
Alors, les SCOP, elles sont coincées dans le système actuel et dans le marché. Le problème, c'est qu'elles sont impliquées dans les lois du marché, et elles sont qui dominent tout, qui imposent des prix bas. Malheureusement, bien souvent, dans les SCOP, les salariés, quand c'est des entreprises... Enfin, il y a différents types de SCOP, mais on a vu un certain nombre de SCOP se monter après que des patrons aient voulu fermer l'entreprise, par exemple, et que ce sont les salariés qui se sont réinvestis là-dedans, qui ont mis leurs économies, etc. Ensuite, les travailleurs s'exploitent eux-mêmes dans un système où il faut toujours être plus, proposer des prix plus bas pour obtenir les marchés, etc. Puis on voit bien ce que ça donne. On a vu l'entreprise de Ferry récemment, MyFerryLink, se casser la figure, etc. Alors, il y a des scopes qui tiennent, qui se développent, et puis qui deviennent exactement comme les autres entreprises capitalistes. Parce qu'en réalité, elles fonctionnent dans la même logique. On va passer
un petit peu sur l'économie et l'emploi, on en a déjà beaucoup parlé, c'est quelque chose de très important, mais il y a d'autres domaines importants dans les élections régionales, notamment l'éducation, avec toi Iris.
Donc oui, effectivement, comme vous êtes enseignante, pardon, dans un lycée professionnel, j'ai une question qui nous touche, nous, plus particulièrement les étudiants, puisque les étudiants sont particulièrement touchés également par la précarité. Quelles mesures souhaitez-vous mettre en place en région Centre-Val-de-Loire pour les étudiants ?
Alors, d'abord, aujourd'hui, je crois que les étudiants, ils sont très nombreux à devoir travailler et devoir gagner leur vie en plus des études, etc. Ça prouve aussi dans quelle situation aujourd'hui se trouvent beaucoup de familles de milieux populaires qui doivent financer et qui ne peuvent pas forcément financer les études de leurs enfants. Donc je pense qu'il serait tout à fait légitime pour que tout le monde accède très largement aux études, qu'il y ait des moyens de donner pour ça, plus important que ce qu'ils sont aujourd'hui, qui ne contraignent pas tous les jeunes à mettre parfois en danger leurs études parce qu'il faut travailler, et c'est pas simple. Voilà, ça c'est un premier problème, mais qui est relié directement à la catastrophe qu'on vit actuellement, qui est cette dégringolade depuis des années maintenant des classes populaires vers des moyens de plus en plus restreints face aux charges qui sont celles que nécessite la vie quotidienne. Et donc ça va aussi dans le sens de la bagarre contre le chômage, pour de meilleurs salaires ouvriers, enfin plus largement pour les travailleurs, la bagarre pour un niveau de vie qui permette de vivre dignement dans cette société de son travail. Et aujourd'hui, malheureusement, l'exploitation, c'est bien souvent consacrer sa vie au travail pour pouvoir entretenir sa famille, payer des études aux enfants, sans pour autant qu'il y ait une autre perspective qu'un bas salaire. Si les salaires étaient meilleurs, si les moyens existaient, les jeunes ils pourraient plus facilement faire des études sans forcément devoir travailler.
Oui, mais justement, il y a déjà un système de bourse qui est mis en place. Est-ce que vous auriez, on voit bien que ça ne suffit pas puisque beaucoup d'étudiants sont obligés de prendre un boulot, est-ce que vous pensez que ce serait possible d'ajouter quelque chose pour les aider ?
De toute façon, je crois que ces bourses, elles sont très insuffisantes. Maintenant, dans la jeunesse, tout le monde n'est pas non plus à la même enseigne. Il y a aussi une fraction de la jeunesse, alors elle est minoritaire, qui a tout à fait les moyens, parce que venant de milieu familial où les moyens sont très larges, qui a tout à fait les moyens de faire des études sans ça. Je ne dis pas que tous les jeunes ont besoin de ces aides, mais par contre, elles sont très insuffisantes au regard des moyens aujourd'hui dans les familles populaires.
Le PCF propose notamment un salaire étudiant.
Oui, qu'ils le proposent. On verra s'ils le mettent en place. Ont été au gouvernement, ils ont déjà été au gouvernement, le Parti communiste.
Ils ont participé.
Ils ont participé à des gouvernements, à l'époque de Jospin, plus au début des années 80 aussi, pendant quelques années.
Ça pourrait être une solution, d'après vous. Vous soutenez cette idée, on va dire, qui pourrait, d'après vous, être une solution envisageable ?
Pourquoi pas ? Mais comme je vous disais, nous, on ne prétend pas non plus que tous les étudiants ont les mêmes besoins, ont les mêmes contraintes. Et donc un salaire étudiant, mais sur quels critères, etc. Enfin, nous, de toute façon, si vous voulez... aujourd'hui, on ne dit pas qu'il faudra faire telle et telle et telle mesure, parce que qu'est-ce qu'on voit ? Tous ceux qui ont dans le passé et jusqu'à aujourd'hui, Parti communiste inclus, annoncé tout un tas de mesures. Regardez Hollande qui, quand même, il y a peu d'années maintenant, s'est fait élire à la présidence de la République avec un certain nombre de promesses. Aucun d'entre eux ne met en place... ce sur quoi ils ont fait campagne et ce sur quoi ils se font élire. Donc là-dedans, il y a beaucoup de mensonges dans les promesses. On va faire ci, on va faire ça. Le problème, c'est avoir un certain nombre d'objectifs, comme votre collègue me demandait tout à l'heure, ça suppose de se donner les moyens de le faire. Alors, ceux qui prônent un salaire étudiant, très bien. par quels moyens on va obtenir ça ? Est-ce que c'est l'État aujourd'hui qui va donner ce salaire étudiant alors qu'il restreint les budgets partout, dans les services publics, dans les régions, les mairies, les communautés de communes ?
Une révision des
dépenses. Alors voilà, une révision des dépenses. Mais ça veut dire engager un bras de fer face à ceux qui prêtent de l'argent à l'État, ou bien ça veut dire, on l'a vaguement évoqué tout à l'heure avec la Grèce, ce que ça peut... entraîner comme difficulté, parce que ceux qui tiennent vraiment les cordons de la bourse aujourd'hui, c'est la grande bourgeoisie, c'est eux qui prêtent de l'argent chaque jour à l'État pour que l'État paye ce dont il a besoin, paye les salaires, etc. Donc, mais par contre, l'État fait des choix. Il y a 40 milliards qui vont en aide au patronat au nom d'un côté de l'aide à la recherche, crédit impôt, compétitivité recherche, etc. Enfin, il y a un certain nombre de plans mis en place par le gouvernement qui consistent à dire il faut donner de l'argent aux entreprises, et ça s'élève à vraiment des volumes très importants, pour les aider à embaucher. Cet argent-là, on pense bien qu'il faudrait le récupérer et que c'est pas aux entreprises sur lesquelles on n'a aucun contrôle actuellement dans le contexte et qui font ce qu'ils veulent de cet argent-là et en tout cas pas spécialement ce qu'on en attend, c'est-à-dire des créations d'emplois. Cet argent-là, oui, il pourrait servir à autre chose. Mais ça, c'est une volonté politique de s'opposer au patronat et à la bourgeoisie. Est-ce que la gauche aujourd'hui, est-ce que le Parti socialiste, est-ce que ses alliés, ils ont la volonté politique de s'opposer à la bourgeoisie ? On voit le contraire. On voit qu'au contraire, ils leur font des cadeaux exactement comme la droite.
Oui. Du coup, à propos du problème d'emploi, est-ce que vous pensez pas que ce problème d'emploi peut être lié à un problème de formation ?
Oui, alors la formation, on nous dit beaucoup qu'elle n'est pas en adéquation avec les emplois. C'est vrai qu'on entend beaucoup ça. Mais moi, je pense que le jour où le patronat, il aura des besoins réels, quand il a des besoins réels, il y a deux choix. Soit on demande à la société, par exemple à l'éducation nationale, au centre d'apprentissage financé par l'État, etc. Soit on demande à la société de former par avance des gens qui seront employables et rentables pour l'entreprise. C'est la société qui prend en charge la formation, qui est investie dans ce coût de formation. Et derrière, les jeunes en particulier, quand ils ont besoin d'une embauche, eh bien, ils vont trouver un boulot parce qu'ils sont directement employables, ils ont la bonne formation qui correspond à ce que le patronat demande. Mais ça, c'est la société qui répond à un besoin. Le patronat, il a besoin de gens pour faire tourner ses entreprises de services, de production, etc. Et que ça lui rapporte de l'argent. À une époque où l'économie était moins tournée peut-être vers la spéculation, les patrons, quand ils avaient besoin de main-d'œuvre, ils prenaient le temps de former les gens. Aujourd'hui, ça les intéresse pas. Ils veulent des gens immédiatement rentables. C'est toujours le profit immédiat. Mais s'ils avaient besoin réellement d'une main-d'œuvre...
C'est dur d'être d'accord avec ça. Les temps de formation s'est allongé. On fait de plus en plus d'années d'études. Il y a de plus en plus de subventions pour les formations professionnelles, faire des sortes de stages complémentaires. C'est pas vrai, on forme toujours les gens.
Et de plus en plus d'étudiants tout court.
Oui.
Et de plus en plus d'étudiants aussi, c'est vrai.
Alors, je me suis peut-être pas bien fait comprendre, parce que ce que je dis, c'est que justement, c'est l'État qui prend en charge la formation. C'est pas ceux qui, aujourd'hui, réclament ou prétendent que les jeunes sont mal formés, ne sont pas formés en fonction des emplois qu'ils leur proposent, etc. L'État prend en charge toute la formation des jeunes, et une formation de plus en plus longue, vous avez raison, mais parce que le patronat a besoin de gens qui vont pouvoir mettre au travail immédiatement et qui vont leur rapporter de l'argent immédiatement. Ce que je veux dire, c'est que moi je dis, les patrons, ils n'ont qu'à aussi former les jeunes, prendre le temps de les former, mettre quelqu'un à côté d'eux dans le travail pour les former. Mais ils veulent pas faire ça. Parce que chaque ouvrier dans une entreprise, il faut qu'il rapporte de l'argent tout de suite. Et donc être mis en binôme avec un jeune qui formerait, par exemple, les patrons, ça les intéresse pas beaucoup. Alors vous dites qu'il y a de plus en plus de stages, mais moi je peux vous dire que par exemple, l'apprentissage est très à la mode dans notre société, on en parle beaucoup, etc. Mais il y a beaucoup de jeunes qui trouvent pas d'apprentissage parce que les patrons n'ont pas envie de s'embêter à former les jeunes. Et ils demandent que ce soit l'éducation nationale qui le fasse.
D'accord, donc on va peut-être s'arrêter là sur ce sujet. On avait aussi une question à vous poser vis-à-vis de l'environnement. Sur votre programme, on ne retrouve pas de position, votre position vis-à-vis de la préservation de l'environnement. Avez-vous des projets ou l'absence de propositions signifie-t-elle que ces mesures ne sont pas votre priorité ?
Oui, bien sûr que l'environnement, c'est quelque chose qui nous préoccupe comme beaucoup de gens. Je crois que le monde actuel, on peut pas vraiment passer à côté de ces questions-là quand on voit ce qui se passe autour de nous, quand on voit la dangerosité. Je sais pas, dans les dernières années, on a eu quand même des exemples des catastrophes qui peuvent être provoquées sur l'environnement une centrale nucléaire au Japon. Aujourd'hui, on parle des questions climatiques, etc. Bon, il y a peut-être parfois à boire et à manger dans tout ça, mais malgré tout, je pense que c'est une vraie préoccupation et on la partage, cette préoccupation. La question, c'est que nous, on résoudra fondamentalement ces problèmes-là dans une société où l'économie est irrationnelle parce qu'elle est dirigée par une minorité de gens qui ne voient que leur profit et pour qui l'intérêt général, quand ils évoquent ça, c'est leur intérêt à eux. Et pas l'intérêt de toute la société.
Donc vous voulez vraiment faire passer l'aspect économique en avant et l'environnement, ça passe en second plan.
Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de se poser la question qui est-ce qui aujourd'hui tient les rênes, contrôle la société actuelle, qui est-ce qui décide aujourd'hui, ceux qui décident. C'est pas vous et moi, c'est pas ces millions de gens qui font fonctionner la société par leur travail. Ceux qui décident, c'est une petite poignée de parasites de cette société qui n'ont comme seul objectif que d'augmenter leur fortune. Tant que ces gens-là décideront,
ils sont responsables aussi de la crise environnementale.
Bien sûr, c'est le système qui est responsable de tout ça. Hein. Donc le système aujourd'hui, il est fait pour qui Il est fait comment? Il est fait pour qui? Qui a fait les grands choix de notre société depuis 50 ans? On voudrait nous faire croire que c'est nous parce qu'on met un bulletin dans l'urne de temps en temps. Mais en réalité, on ne contrôle rien de cette société et des choix qui y sont faits. Certains parleront du nucléaire et du choix du tout nucléaire en France. On n'a pas demandé l'avis de la population. Mais il y a bien d'autres questions. Est-ce que vous croyez que la production telle qu'elle est faite aujourd'hui dans notre société, elle est faite rationnellement? Pas du tout, hein. Elle n'est pas faite rationnellement, alors que des entreprises vont être capables de rentrer en concurrence pour produire la même chose, s'avaler les unes les autres, et vont, par exemple, exporter des poulets vers l'étranger à des milliers de kilomètres, puis on va en acheter qui vont venir dans notre pays venant d'ailleurs. Tout ça, c'est une économie irrationnelle où il n'y a que l'argent qui compte. Donc évidemment que ça fait un gaspillage énorme et qu'on est contre ce gaspillage et qu'on est pour le dénoncer. Mais c'est l'irrationalité d'une société économique où tout est fait pour l'argent.
Alors on va devoir clore cette émission, touche à sa fin. Alors on a un petit principe qui est la question à l'invité de demain. Alors, vous êtes la première, donc personne ne vous a posé de questions, une chance ou pas à vous de voir. Demain, nous recevons Jean-Michel Bodin, de la tête de liste PCF, Parti communiste français, MRC et FG, Front de gauche. Qu'est-ce que vous avez à lui dire?
Eh bien, je dirais, monsieur Bodin, pour le monde du travail, pour ceux au nom duquel vous parlez, croyez-vous donc que c'est à la région ou en soutenant de près ou de loin un gouvernement et des alliés qui aujourd'hui mènent des attaques qui ne font qu'en rajouter par rapport à ce que Sarkozy avait pu faire et ses alliés de droite et qui continuent dans la même direction, est-ce que vous croyez que c'est dans cette direction-là qu'on peut aller et que le monde de travail ne doit pas se défendre par lui-même pour défendre ses propres intérêts? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas ni les régions, ni le gouvernement qui vont faire en sorte que la société prenne une autre inflexion et une autre direction que ce qu'on voit aujourd'hui, qui est une catastrophe dont je vous rappelle,
c'est il en a question, des... là. Ah oui. C'était une question. Merci beaucoup en tout cas Anne Brunet d'être venue nous voir pour représenter la liste lutte ouvrière. Décidément, j'aurais eu du mal.
Si vous pouvez écoutez... dire aussi faire entendre le camp du travailleur, parce que c'est aussi faire le sous-titre de notre liste.
C'est plus simple. Pour la liste faire entendre le camp du travailleur, donc. Si jamais cette émission vous a donné envie de voter pour la lutte ouvrière ou de voter tout simplement, n'oubliez pas les élections, le premier tour, c'est le 6 décembre prochain. Et on se retrouve demain avec Jean-Michel Baudin pour la liste PCF, MRC, Front de Gauche. Bonne journée à tous.